RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Les Français sont-ils encore généreux en 2022? La réponse serait plutôt oui, d'après quelques études qui commencent à sortir. Les dons aux associations et fondations seraient en hausse malgré les conséquences de la crise sanitaire et du contexte politique lié à la guerre en Ukraine. On va regarder tout ça de plus près avec nos invités et dans la seconde partie de l'émission, nous verrons concrètement comment exercer cette générosité. On essaiera aussi d'y voir un peu plus clair dans le mécanisme assez complexe de la transmission et de la fiscalité. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus toujours pour témoigner et réagir. Avez-vous fait peut-être plus de dons aux associations depuis le début de l'année? Pourquoi est-il important pour vous de continuer à soutenir ces associations? Est-ce que vous comprenez, malgré le contexte, cette hausse de la générosité des Français? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense donc j'agis. Sur RCF.
Exceptionnellement, ce n'est pas Étienne Pépin qui m'accompagne en ce vendredi, c'est Philippe Lansac, directeur éditorial radio podcast RCF. Bonjour Philippe.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et tous. Les Français sont-ils encore généreux? C'est effectivement la question qu'on va se poser ce matin, Melchior, à l'heure où beaucoup d'entre nous sont en train de finaliser leur déclaration d'impôt sur le revenu ou, pour les plus privilégiés d'entre eux, se préparent aussi à effectuer leur déclaration sur l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, dans le cadre duquel ils peuvent choisir ou non de donner à des associations ou à des fondations. Ils étaient plus de 20 000 foyers à le faire l'an dernier. Les Français ont été particulièrement généreux en 2020 face à la pandémie de Covid-19 avec une hausse de près de 14% des dons cette année-là, notamment pour la recherche et la santé, mais pas que, aussi pour les plus démunis à l'heure où 1 million de personnes supplémentaires sont passées sous le seuil de pauvreté en France suite à la pandémie. Mais que s'est-il passé depuis, en 2021, et quelles sont les tendances pour ce premier trimestre 2022? Les Français ont-ils encore les moyens d'être généreux à l'heure où leur pouvoir d'achat s'effondre avec la hausse des prix sur l'énergie et plein d'autres denrées de première nécessité? Quelles sont les causes aussi qui mobilisent leur générosité dans un contexte où l'aide aux réfugiés de la guerre en Ukraine a déclenché, et on s'en réjouit, un très grand élan de solidarité? Et puis, quelle évolution de la sociologie des donateurs? Qui sont-ils? Les Français moyens, entre guillemets, sont-ils plus généreux que les plus fortunés? Ou inversement, quel âge ont les donateurs? Combien donnent-ils en moyenne? Et comment donnent-ils dans un contexte de révolution digitale? Autant de questions qu'on va se poser ensemble ce matin, Melchior.
Et avec nos deux invités qui nous accompagnent jusqu'à 10h.
Deux experts du sujet avec nous. Nolwenn Poupon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des études et de la communication de France Générosité. Avec nous dans ce studio également, François Maillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur honoraire à l'école de management de Lyon et président de la société de conseil aux associations Ultra Via. Alors Nolwenn Poupon, vous représentez l'institution de référence pour connaître la générosité des Français. Deux mots en introduction sur ce qu'est France Générosité peut-être et pourquoi c'est la référence en la matière.
Alors France Générosité, c'est le syndicat des associations et des fondations d'intérêt général qui font appel aux dons, donc qui ont besoin de ressources privées, dons, mécénat, pour mettre en place leur mission d'intérêt général. On représente à ce jour 130 associations et fondations qui représentent environ un budget de 8 milliards d'euros par an et environ 2,8 milliards de dons collectés.
Quelques exemples d'associations parmi ces 100...
Action contre la faim, la Fondation de France, Sidaction, Les Petits Princes, donc vraiment de sur toutes les missions sociales, hein, que ce soit de la lutte contre la précarité, de la recherche médicale, de l'éducation populaire, et également toutes les tailles, des petites structures, des grosses structures. C'est important d'avoir un collectif qui représente plusieurs associations, parce qu'on va voir, il y a eu des différences en fonction du contexte. Et nos missions, c'est bien entendu de les défendre, de comprendre la générosité et d'expliquer aux Français et aux médias ce qu'est la générosité et quels sont les besoins des associations.
C'est une forme de syndicat professionnel, c'est le MEDEF des associations, on va dire.
Non. C'est un syndicat professionnel, on est là pour les aider au quotidien et expliquer aussi parfois au gouvernement pourquoi telle loi qui est mise en place est un vrai danger pour la générosité et par contre pourquoi on fait cette proposition de loi pour développer la générosité et une culture du don en France.
Alors on va parler de ces enjeux justement. François Maillot, pour ouvrir cette émission, j'aimerais d'abord avec vous qu'on comprenne de manière un peu globale ce que représente la générosité en France en termes de poids, je dirais de rôle dans notre société par rapport aussi à l'État, aux collectivités publiques. Pour le bien commun, ces dons, ces plusieurs milliards d'euros dont nous parlait Nolwenn Poupon, ça représente quoi en poids?
Alors la dernière étude global, vraiment, c'est le panorama national de la Fondation de France hein, qui a des chiffres complets sur 2019. Nolwenn nous donnera des éléments plus complets et plus détaillés sur les années d'après, mais cette étude fait référence. Et en 2019, on évoque le chiffre de 5 milliards d'euros pour de la générosité des Français, aussi bien les dons déclarés à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu ou au titre de l'impôt sur la fortune immobilière, comme c'était évoqué en introduction de cette émission, que les dons non déclarés, hein, les dons que l'on fait à des personnes ou à des associations sans forcément déclarer aux impôts, mais aussi les legs. Donc 5 milliards. Donc 5 milliards par rapport à la question de départ, les Français sont-ils généreux? Oui. Mais
C'est beaucoup ou pas 5 milliards?
Oui, c'est beaucoup. Donc on se dit c'est vraiment important, ce courant de générosité qui en plus se développe, hein, on pourra en parler. Néanmoins, si on veut regarder le verre à moitié plein, alors que chez RCF, on regarde plutôt le verre à moitié vide, à moitié plein, pardon,
l'inverse,
c'était pour voir si les auditeurs suivaient. Si on regarde le verre à moitié vide, cette fois, 5 milliards, c'est ce que donnent les Français pour nourrir leurs chiens et leurs chats chaque année.
Ah oui.
Donc voilà, on est sur deux chiffres qui sont quasiment identiques. Ça ne veut pas dire que la cause. Oui, ça veut dire que effectivement, alors plus de la moitié des Français ont un animal domestique, 14 millions de chats, 7 millions de chiens, etc. Donc beaucoup plus finalement que de Français donateurs. Donc voilà, on peut regarder ces chiffres. Effectivement, c'est conséquent, important et en progression. Mais en même temps, ça reste encore aujourd'hui une place finalement assez faible par rapport au panorama économique global.
Aux autres pays du monde, vous avez une petite idée, les Français par rapport aux Américains, aux Allemands, aux Japonais?
Alors, effectivement, la France est considérée, Nolwenn pourra y revenir, comme étant un des pays les plus favorables au niveau de la législation sur les dons, hein, en Europe et aux États-Unis, même s'il reste encore des progrès à faire. Et France Générosité a toute une série de propositions à ce niveau-là, notamment qui ont été entendues ou en tout cas promues pendant les dernières campagnes présidentielles. Mais donc on s'aperçoit que les Français sont généreux aussi de par ces dispositifs d'incitation fiscale et de réduction fiscale, que par contre, on va dire que le don n'est peut-être pas, si je fais une analyse culturelle un peu rapide, n'est peut-être pas complètement dans l'ADN de la culture française comme elle peut l'être par exemple dans certains pays d'Amérique du Nord, on pense aux États-Unis, on pense au Canada.
Nolwenn Poupon, si on prend un peu de recul, qu'on regarde peut-être ces 20-30 dernières années, voire plus, je ne sais pas quelle référence vous avez en la matière, comment a évolué justement cette générosité des Français?
Alors, sur un temps long, la générosité des Français a évolué de façon très positive. Elle n'a fait qu'augmenter. Sur les 20 dernières années, on a eu une seule année de baisse de la générosité, c'était 2018. Et la seule raison pour laquelle la générosité a baissé, c'est qu'on a subi trois réformes fiscales qui ont perturbé le comportement donateur, qui ont créé le doute, la confusion. Donc en 2018, il y a eu la transformation de l'ISF en IFI, ce qui a conduit à une baisse du nombre d'assujettis.
C'était très dur. Hein.
Ouais. Exactement. Il y a également la hausse de la CSG sur les retraités qui sont le cœur des donateurs français. Donc quand vous touchez à leur pouvoir d'achat, eh ben ils baissent leurs dons. Et il y avait l'année blanche, le prélèvement à la source qui a créé une vraie confusion puisqu'on a parlé d'année blanche comme si l'année n'allait pas compter. Donc on a reçu des milliers d'appels de donateurs qui disaient mais est-ce que dans ces cas-là, mon reçu fiscal va fonctionner ou pas? Donc une énorme confusion qui a entraîné une baisse des dons de 4,8% en 2018. Sinon, à part ça, la générosité n'a fait que progresser sur les 20 dernières années.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je reprends un peu cette question que je posais à François Maillot par rapport à d'autres citoyens d'autres pays, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord ou du Sud. Les Français se situent comment ?
Alors c'est très compliqué parce qu'on n'a pas le même système de fiscalité et d'imposition. Ouais. Donc c'est quand même très compliqué de comparer. Mais en effet, je rejoins les propos d'avant sur l'ADN. En effet, les pays anglo-saxons, c'est plus dans leur ADN. Mais pourquoi c'est dans leur ADN ? Parce que c'est inculqué dès l'école. On leur apprend, par exemple, en Angleterre, il y a le jour du don où les enfants arrivent et donnent une pièce pour l'association qu'ils choisissent. En contrepartie, par exemple, ils peuvent venir sans mettre leur uniforme. Et comment on crée cette culture du don en France ? Ben, nous, on a fait fait des propositions politiques lors de l'élection présidentielle. On a présenté à tous les candidats en voulant introduire un parcours et une éducation à la générosité et à l'engagement dans le parcours citoyen, dans le programme de l'éducation nationale, pour réussir justement à nourrir ce vivre ensemble avec les enfants et créer les donateurs du futur. Et
on parle de la générosité des Français ce matin. Venez participer à l'émission avec vos réactions, vos témoignages. Dites-nous si vous faites plus de dons peut-être aux associations depuis le début de cette année 2022 et pourquoi c'est important de continuer à soutenir toutes ces associations. On vous accueille à l'antenne au 04 72 38 20 23.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Philippe Lansac.
Avec toujours nos deux invités, Philippe Lansac, Nolwenn Poupon et François Maillot, qui nous accompagnent dans cette première partie.
Nolwenn Poupon, je rappelle que vous êtes directrice des études à France Générosité. J'aimerais qu'on parle avec vous maintenant des grandes causes dans lesquelles s'engagent les Français. Qu'est-ce qui les mobilise le plus? Est-ce que c'est le soutien aux personnes démunies, aux personnes sans-abri, aux réfugiés? Est-ce que c'est la recherche médicale, la protection de l'environnement, la protection des animaux, la culture, le sport? Voilà, c'est quoi ce qui mobilise le plus et dans quelle proportion?
Alors, quand on demande aux Français quelles causes les mobilisent le plus, quelles causes ils ont envie de soutenir, le trio de tête, il est stable depuis des années. C'est la protection de l'enfance, la lutte contre la précarité et l'exclusion, et la recherche médicale. Ça, quand on leur pose la question, il y a pas de souci. On a vu, par contre, sur les dernières années, une montée de la protection des animaux et de la lutte, de la protection de l'environnement. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié à toute la mobilisation des associations. Je pense à la Marche du siècle, l'Affaire du siècle, de Greenpeace, d'Oxfam, etc., qui ont permis de mettre au cœur des enjeux médiatiques et politiques le changement climatique et l'environnement. Et donc, on voit aussi qu'au-delà des causes qui peuvent nous toucher, le rôle des médias pour toucher les Français. Parce qu'en effet, demain, la crise ukrainienne, elle a suscité une mobilisation exceptionnelle en France. Hein, vraiment, que ce soit en dons, que ce soit en dons monétaires ou en dons physiques, les Français ont voulu se mobiliser. Pourquoi? Notamment parce que ça a été dans tous les médias pendant un mois, non-stop. Et quand on parle aux Français et qu'on leur explique une problématique et les solutions qu'on peut apporter, ils ont toujours donné. Par contre, une crise qui n'est pas médiatisée, bien entendu, ça va être beaucoup plus difficile de susciter le don. Et là, il y a un vrai rôle avec les médias. Et je peux vous prendre plein d'exemples. Hein, le Téléthon, 48 heures d'antenne non-stop. Eh ben, on est touché, on comprend la problématique, on comprend les solutions qu'apportent aussi les associations. On se mobilise.
On se souvient également de ce qui s'était passé lors du tsunami en Asie. Hein.
Bien sûr, Haïti également en 2010.
Voilà. Rôle des médias, c'est ce qu'on fait ce matin sur RCF également. Et c'est aussi dans l'ADN de notre radio qui... On le rappelle quand même, la premier réseau de radio associative de France qui, bien sûr, s'intéresse à cette question de la générosité, de la solidarité et comme vecteur de fraternité dans notre société. François Maillot, vous accompagnez depuis de nombreuses années, vous suivez de près la question des associations, leur fonctionnement, la question de ce soutien par les dons, leur gouvernance. Vous accompagnez aussi, et vous avez accompagné longtemps, des associations chrétiennes. Voilà. Si on regarde un peu, et on sait combien les associations chrétiennes ont un rôle important, pas qu'elles, hein, mais elles ont quand même un rôle et un point important dans ce monde associatif tous azimuts, hein, sur tous les sujets. En quoi, dans le champ chrétien, les dons ont pu évoluer et l'évolution de ces associations en la matière?
Oui, les associations dites cultuelles ou parfois confessionnelles ont un rôle particulier puisque depuis très très longtemps, et donc depuis on pourrait dire 2000 ans même en ce qui concerne le christianisme, on fait appel naturellement aux dons, hein, puisque dans l'évangile il est quand même demandé aux communautés de porter et de pouvoir subvenir aux besoins des pasteurs et des apôtres. Donc ça fait très longtemps que cette culture du don, elle est théoriquement inhérente à cette religion. Et puis plus proche de nous, on est donc 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État, donc l'État considère qu'il ne doit plus salarier donc les ministres des cultes, et à partir de là, notamment l'Église catholique, mais aussi l'Église protestante et les églises présentes, on pense aussi au judaïsme même, puisque la religion musulmane n'était pas présente à l'époque, ont dû très vite trouver des moyens de survivre, hein, parce que sinon il en allait même de la survie des personnes, hein, qui n'avaient plus de revenus. Et donc c'est créé, vous le savez, à cette antenne, le denier du culte, qui est devenu le denier du clergé, etc., etc., et puis le denier de l'Église. Donc souvent, pour repérer un peu la générosité générosité vis-à-vis de l'Église, on prend l'évolution du denier de l'Église. Et c'est vrai que cette évolution, elle est positive parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de personnes qui donnent à l'Église, mais en même temps, on voit qu'elle est en baisse. Et donc, on commence à avoir les chiffres de 2021. Et si je prends le baromètre du denier de l'Église de la société Altériade, on voit que le denier de l'Église a connu une baisse de l'ordre de 4% entre 2020 et 2021. Surtout, une baisse du nombre de donateurs de l'ordre de 9%. Alors c'est sûr qu'on compare ça avec l'année 2020, et on aura l'occasion d'y revenir, qui fut une année exceptionnelle, où notamment les Français et les chrétiens qui ne pouvaient plus forcément aller à l'église, donc qui ne donnaient plus forcément à la quête, qui ne donnaient moins aux offrandes de messe, etc., ont donné plus au denier de l'église. Hein. Donc il y a eu une sorte de rattrapage en 2020, mais en 2021, cette baisse est notable, et c'est une baisse qui est quand même tendancielle depuis quelques années. Donc, malgré tout, une forte générosité, hein, des centaines de millions d'euros qui sont donnés par les Français à l'Église, et de même au niveau des protestants, hein, qui se montrent aussi particulièrement généreux, mais une tendance à la baisse.
Alors j'aimerais, Nolwenn Poupon, qu'on parle aussi, on a parlé des causes qui mobilisent la générosité des Français, j'aimerais qu'on parle un peu de leur sociologie. Les Français qui donnent aujourd'hui, ils ont quel âge, ils viennent de quelle classe socio-professionnelle, est-ce que, alors comme une accroche de manière peut-être un peu provocative, j'évoquais cette question, est-ce que au fond les Français aux revenus moyens sont plus généreux que les Français les plus fortunés, ou inversement? Enfin voilà, quelle est la sociologie des donateurs en France?
Alors déjà, le donateur français, il est fidèle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il rentre dans le don, il fait son premier don, il va rester fidèle des années à l'association. Et donc ça, c'est hyper important parce que c'est très valorisant pour le lien entre le donateur et l'association. Ensuite, en termes de profil sociologique, c'est plutôt des personnes plus âgées. On s'oriente vers le don justement à un moment de sa vie où on a peut-être moins de charges, de crédit, d'enfants à gérer. Et puis on se pose un peu plus de questions sur l'après et la redevabilité. Donc quasiment la moitié des donateurs ont plus de 50 ans et le quart a plus de 70 ans. En termes de profil, ça serait plutôt une toute petite préférence pour les femmes. En effet, la part des donateurs qui ont un niveau d'études supérieur au BAC+3 est plus importante chez les donateurs que dans la population française. Après, on se rend compte également qu'on a des donateurs de toutes catégories, de tout âge, mais il y a une forte proportion des personnes âgées, ça c'est clair.
C'est un sujet, ça, quand même, François Maillot, quand on se projette vers l'avenir, des donateurs qui sont âgés, plus de 50 ans, ça peut être presque préoccupant.
Ben oui, parce que toutes les associations qui font appel à la générosité essayent de cibler, entre guillemets, cette catégorie, qui se sent parfois, on l'entend dans certains témoignages, un petit peu surexposée, hein, aux appels. Effectivement. Alors, peut-être un élément qui est très encourageant, malgré tout, c'est qu'effectivement, les jeunes donnent proportionnellement moins, et Nolwenn expliquait logiquement pourquoi. Effectivement, les moins de 30 ans doivent représenter à peu près 4-5% des donateurs.
Oui, c'est vraiment pas beaucoup.
Voilà. Mais lorsqu'ils donnent, c'est ça qui est très intéressant, on a un indicateur qui est ce qu'on appelle l'effort de don. L'effort de don, c'est les dons rapportés aux revenus.
Et oui.
Et bien, lorsqu'ils donnent, les jeunes donnent quasiment autant, les moins de 30 ans donnent quasiment autant que les plus de 70 et donnent même plus que si on prend les plus de 60.
Donc, quand ils donnent, en valeur relative, ils sont un peu plus généreux.
En valeur relative, finalement, ils sont généreux. Et ça, c'est encourageant. Par contre, effectivement, je crois que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations sont préoccupées aujourd'hui sur la manière de convaincre ces nouvelles générations en utilisant parfois des innovations. Hein, on le sait, le don par SMS, ouais. L'arrondi solidaire, l'arrondi sur salaire pour les jeunes professionnels. Hein, donc, il y a toute une richesse d'innovation. Mais aujourd'hui, le premier don, comme disait Nolwenn, est le plus difficile parfois à obtenir. Et une fois que les gens rentrent dans ces dynamiques du don, cette générosité s'affirme.
C'est un enjeu majeur, ça, Nolwenn Poupon. Comment tous les membres de France Générosité, là, toutes ces associations, ces centaines d'associations que vous rassemblez, regardent cette question d'inspirer les jeunes générations à eux aussi s'engager à donner?
Tout à fait, c'est un vrai enjeu. On sait que les nouveaux donateurs sont en baisse. Hein. Si on prend plusieurs années, les nouveaux donateurs à une association ne font que baisser d'année en année. Donc c'est vraiment ces donateurs fidèles qui poussent la générosité. C'est une question qu'ils adressent. Hein. En effet, en développant les façons de donner, avant on donnait quasiment exclusivement par chèque ou en, en dons en nature. Les modes de paiement ont explosé. Le don en ligne, hein, c'est quasiment un quart de la façon de donner maintenant est fait en ligne. Ça a été un boom avec le Covid. Nous, on a eu très peur hein, pendant le confinement, puisque la majorité des dons, on les reçoit par chèque. Parce qu'on reçoit une sollicitation à son domicile, qu'on y répond et qu'on renvoie par chèque. Quand la poste ne fonctionnait plus au début avec le confinement, on s'est dit comment on va pouvoir mobiliser les Français. Eh ben, les Français se sont adaptés. Comme ils ont fait leurs courses en ligne, eh ben, ils ont fait leurs dons en ligne. Et on a eu plus 77% des montants des dons en 2020 qui ont été faits sur Internet. Donc, on sait que la population française, là, elle a gagné 10 ans d'expérience et d'expertise sur le digital. Et on pense qu'ils vont rester sur le digital maintenant puisque c'est des tendances qui ont été acquises. Également, par exemple, on a fait énormément de dons en prélèvement automatique. C'est qu'au lieu de faire son don par chèque en fin d'année, les donateurs, ils donnent tous les mois 10, 15, 20 euros à une association. Et ça correspond aussi à des habitudes de consommation. On paye son abonnement téléphonique, son abonnement de télé, son loyer, etc. en prélèvement automatique. Et donc, on le fait également pour les associations. Et pareil, en termes de fidélité à l'association, c'est assez dingue parce que ça permet aussi à l'association, dès le 1er janvier, de pouvoir avoir une vision budgétaire de l'année. Et c'est très sécuritaire. Et ces dons en prélèvement automatique, par exemple, ils représentent en 2020 environ 36% de la générosité contre 30% il y a 10 ans. Ça ne fait qu'augmenter.
Voilà, ce qui permet de donner un peu d'air aux associations qui sont souvent, et c'est le cas d'ailleurs pour RCF, hein, qui est une association aussi, on en parle souvent, qui voient leur collecte de dons complètement concentrée sur souvent les derniers mois de l'année. Hein, François Maillot avec beaucoup d'inquiétude en ce sens.
Oui, on est sur des collectes aujourd'hui sur RCF, c'est 50% de la collecte se fait sur les deux derniers mois de l'année, novembre et décembre. Donc je sais qu'on sort d'une série d'émissions, Melchior est bien au courant et Philippe également, jeudi du don hein, sur RCF. La dernière était hier. Et donc, c'était aussi un des objectifs de cette émission, c'est de montrer qu'on a besoin de la générosité tout au long de l'année, et en particulier pour rééquilibrer un petit peu les dons entre le début de l'année et la fin de l'année, parce que c'est quand même très, très fragile de devoir attendre la fin de l'année pour savoir si le budget pourra ou non être équilibré.
Alors, on parle de fragilité, et vous nous l'évoquiez, Nolwenn Poupon, notamment en parlant de l'année 2018, c'est que tous ces dons sont très liés aussi à la fiscalité, et quand il y a des changements fiscaux, c'est compliqué. Effectivement, en 2018, suite à l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, qui a été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, et les déclarants actuellement, on est en plein dans le mois où ils doivent finaliser leur déclaration et potentiellement dire ce qu'ils peuvent donner, et on en reparlera hein, je crois dans la deuxième heure sur la manière dont ce sera possible avec un notaire, un avocat fiscaliste. Mais Nolwenn Poupon, ça a été un gros coup dur pour les associations et les fondations. Expliquez-nous précisément ce qui s'est passé en 2018.
Alors, quand les Français y donnent, ils donnent pas pour la réduction fiscale. Ils donnent parce qu'ils ont envie de donner, parce que de toute façon, quel que soit le niveau de réduction fiscale, ça sera quand même un effort de leur part. Donc ça, un donateur, il donne, et puis ensuite, il a pris l'habitude d'avoir une réduction fiscale. Dans le cas de l'ISF, c'était très différent, puisque la loi, elle est très récente. Hein, la loi TEPA, elle date de 2003. Donc il y avait eu environ 10 ans où les fondations avaient pu solliciter les donateurs assujettis à l'ISF pour avoir un don défiscalisé.
À un haut niveau d'ailleurs, une défiscalisation à quoi ?
75%. Oui, 75% jusqu'à 50 000 euros de dons. Après, les personnes qui étaient assujetties à l'ISF, c'était un profil très particulier, donc forcément avec des ressources financières, mais également avec ce que nous disaient les associations et les fondations, c'était des gens qui vraiment avaient en horreur cet impôt et donc préféraient donner beaucoup plus pour ne pas verser cet impôt. Donc par exemple, il y a des fondations qui nous disaient qu'ils recevaient des dons de 66 666 euros pour pouvoir utiliser la réduction fiscale de 50 000 euros au maximum.
Ah oui, donc vraiment, c'était précisément pour de surtout ne pas payer l'ISF, quoi.
Voilà, c'était très prégnant. Donc cette loi TEPA, elle a duré pendant 10 ans et on a atteint 273 millions d'euros de dons en 2017. Assez énorme. Par contre, quand il y a eu la transformation de l'ISF en IFI, il y a eu une baisse de 3/4 des contribuables assujettis à cet impôt, donc beaucoup moins de cibles et avec un montant d'impôt beaucoup moins important.
En quelle proportion ça a été réduit de fait la collecte ?
De moitié.
Ah, de moitié.
On a eu une baisse de 54% des dons d'une année sur l'autre. Donc forcément, ça a été, nous, dès que cette loi a été envisagée par le gouvernement, on a été voir. À l'époque, c'était déjà les Républicains qui proposaient de supprimer l'ISF dans le cadre de l'élection présidentielle. Ensuite, Emmanuel Macron qui proposait cette transformation, nous, on a été les voix pour les alerter. Déjà, la première chose, c'est qu'ils n'ont pas vu l'impact sur notre secteur. D'où l'importance de France Générosité et de parler en collectif, parce qu'autrement, ils ne nous voient pas. On est vraiment dans l'angle mort des politiques publiques parfois. Donc, on leur a expliqué les conséquences. En effet, les équipes d'Emmanuel Macron étaient persuadées qu'il y aurait un ruissellement. Et bien entendu, ben, quelques années après, on peut confirmer qu'il n'y a pas eu de ruissellement, c'est-à-dire que les donateurs qui sont sortis de l'ISF n'ont pas reporté leurs dons sur l'impôt sur le revenu. Donc pour certaines fondations qui dépendaient à 50-75% de ces dons dans leur modèle économique, ça a été catastrophique.
François Maillot, effectivement, un enjeu catastrophique. Alors, je sais qu'il y a eu un petit rattrapage en 2019, mais effectivement, qui n'a pas compensé cette division par deux de cette collecte de dons via cette fiscalité sur l'ESF. Comment vous avez observé ce sujet-là? Et puis, de fait, quel enjeu pour l'IFI aujourd'hui?
Oui, l'effet rattrapage se poursuit, hein, Noël, on peut le dire, de 2019, 2020. Les 2021, on a les éléments aussi pour montrer que ce rattrapage se poursuit. Hein, donc ça, c'est bien.
On n'est pas revenu au niveau initial. Hein.
Non. Mais on a une partie du rattrapage qui a été effectuée aussi parce que finalement l'IFI a concerné plus de personnes aussi hein, ce qui était pensé au départ, donc le nombre de personnes concernées. Parce que ça pose quand même une question, je me permets quand même derrière ce micro, parce que quand on entend dire que finalement un impôt qui concerne un peu plus de 2/3 des personnes en moins en passant de l'ISF à l'IFI génère pas loin de 2/3 en moins de dons. On voit bien quand même l'impact de la déduction fiscale. Et on pourrait.
Oui, on sent une certaine incitation. Quand bien même les gens seraient donateurs, comme le disait Nolwenn, on sent que c'est légèrement incitatif, l'impôt, quand même.
Tout à fait. Fiscale. Tout à fait. Et donc, on voit bien, si je peux me permettre d'être un peu cynique, que les Français sont tout particulièrement généreux aussi lorsque le système de déduction fiscale est tout à fait généreux. Donc, c'est un peu excessif dans mon propos, parce que comme le disait Nolwenn, malgré tout, quand vous avez une déduction fiscale de 66%, il vous reste 34% à charge. Donc, on donne pas pour faire une bonne affaire. Et puis, d'autant plus, mais ça, on aura l'occasion d'en parler, que vous avez plus de la moitié des personnes qui ne payent pas l'impôt sur le revenu et qui, elles, n'ont absolument pas, ne bénéficient absolument pas de déduction fiscale. Rappelons quand même que l'IFI concerne aujourd'hui à peu près 0,5% de la population française.
Hein. Ah, c'est une toute petite minorité, hein. C'est 20 000 foyers, je crois, je lisais, mais en tout cas.
Au niveau donateur, mais au niveau des personnes concernées, c'est plus. Mais...
C'est plus que ça. En tout cas, peut-être un enjeu, Nolwenn Poupon, de dire à ceux, je dirais, alors ils vont peut-être bondir quand je dis ça, qui ont la chance d'avoir à payer l'impôt sur la fortune immobilière. Un enjeu, peut-être, j'imagine que c'est le message de beaucoup d'associations et de fondations, de se mobiliser, notamment là en ce mois de mai, pour quand même donner aux associations via ces déductions fiscales, Nolwenn Poupon.
Bien sûr, là on est en pleine campagne de déclaration d'impôt et la déclaration IFI se fait en ce moment. Et bien entendu, on informe déjà les donateurs que de cette possibilité-là, dans le cadre de leur IFI, de pouvoir faire un don et le défiscaliser, ça nous semble très important. Mais également, on appelle à tous les donateurs, puisqu'on sait qu'on est quand même dans une situation post-Covid, hein, donc les confinements sont passés, mais les conséquences du Covid, les personnes qui sont tombées en grande précarité sont toujours dans le besoin et on va avoir quand même beaucoup de travail sur les années à venir. Et donc oui, on mobilise toujours les donateurs.
Un mot justement, peut-être François Maillot, pour mobiliser les donateurs qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. On sait que nous aussi, par exemple, la Fondation RCF peut en bénéficier. Qu'est-ce que vous auriez de dire aux gens?
Déjà, effectivement, que pour pouvoir bénéficier de l'ISF, enfin de la réduction IFI maintenant, il faut, pour les auditeurs de RCF, il faut faire son don à la Fondation RCF hein, et pas donc à la radio locale, puisque c'est les statuts de fondation qui permettent de donner cette déduction fiscale. Donc la première chose, c'est de connaître le véhicule fiscal qui permet aux personnes de bénéficier de la déduction. Et de l'autre, je pense que l'appel à la responsabilité qui a été évoqué et qui, là encore, fait partie beaucoup plus facilement de l'ADN nord-américain, où quand quelqu'un aux États-Unis a eu la chance, entre guillemets, et aussi le travail, mais en tout cas la réussite, il est normal, il se sent redevable vis-à-vis de sa communauté locale et vis-à-vis de son environnement, et donc il est normal de donner. En France, peut-être qu'on n'a pas encore cette culture-là.
On verra dans la seconde partie de l'émission à 10h comment exercer concrètement cette générosité. On va marquer une petite pause. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour réagir à ce que disent nos invités, pour nous parler plus généralement de la générosité des Français. À tout de suite.
D'abord on rêve d'une mélodie. facile à siffler sous la lune, de nourrir imbécile sous l'encre et la plume. La vie souffle sa rime d'hier. Ce que tu vois là sur la pellicule, du bleu indélébile de ta main sous mon pull, douce et fragile. Quand le monde se bouscule, on danse sur un fil. Tiendra, tiendra pas. Ça n'arrivera peut-être pas. Pour être honnête avec toi, ça n'arrivera peut-être pas. Mais j'ai dans la tête ce film-là. Ça n'arrivera peut-être pas. Je veux être honnête avec toi. Vois sur la bobine, vois comment on s'éparpille. J'aime ce que l'on chine, les magots, les pacotilles. Au large, j'imagine une idylle à Séville. Viendra, viendra pas. Ça n'arrivera peut-être pas. Pour être honnête avec toi, ça n'arrivera peut-être pas. Et j'ai dans la tête ce film-là. Ça n'arrivera peut-être pas. Je veux être honnête avec toi. Je veux être honnête avec toi. Ça n'arrivera peut-être pas. Et j'ai dans la tête ce tableau-là. Ça n'arrivera peut-être pas. Pour être honnête avec toi, ça n'arrivera.
Peut-être pas, c'était le chanteur Ours sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Philippe Lansac.
Et on parle de la générosité des Français dans cette émission avec nos deux invités qui nous accompagnent dans cette première partie. Nolwenn Poupon de France Générosité et François Maillot de Ultravia, hein, ce cabinet de conseil, société de conseil.
Aux associations et fondations, tout à fait.
Voilà. On a reçu un témoignage tout à l'heure de Maurice de Sainte qui nous dit « La générosité des Français désengage l'État ». Je trouvais ça intéressant, François Maillot.
Ah oui, c'est une question de fond, hein, c'est une question un peu philosophique sur la vision de la société qu'on peut avoir. Hein. Effectivement, les Français sont très attachés au système de déduction fiscale. Il y a une étude récente de cabinet Via Voce qui dit que 67% des Français considèrent que les déductions fiscales sont légitimes, c'est une bonne chose. Mais néanmoins, vous avez toute une série de personnes qui disent finalement, est-ce que c'est bien que les personnes elles-mêmes décident d'affecter une partie de leur impôt quelque part, à des causes, alors que peut-être ça serait à l'État de voir, de comprendre l'équilibre général des causes qui sont nécessaires pour faire fonctionner la société. Donc là, on voit un débat qui est sous-jacent, mais qui est quand même permanent depuis quelques temps, entre les tenants d'une position un peu libérale, hein, qui dit mais non, c'est super que les Français puissent choisir justement la cause qu'ils veulent soutenir, et puis au contraire, une tradition qui est plutôt d'origine marxiste et socialiste au départ, mais qui peut également s'entendre de dire mais la générosité elle doit être organisée. Je prends juste, si j'ai deux secondes, un petit élément sur le mécénat d'entreprise. On a beaucoup parlé de la générosité des particuliers, c'est l'objectif de cette émission, mais on voit que le mécénat d'entreprise se développe beaucoup, et notamment avec une déduction de l'impôt sur les sociétés de 60%. Et le législateur, à un moment donné, a dit « Oui, ok, on va continuer à soutenir à 60%, mais pour les dons qui seront supérieurs à 2 millions d'euros, c'est quand même quand pas même. Mal, on va passer la déduction de l'impôt société à 40% seulement. » Un peu avec la crainte que finalement, certaines grandes entreprises pouvaient donner beaucoup, quitte à déséquilibrer un petit peu le marché de la générosité. La Cour des comptes avait à l'époque quand même compté qu'en 10 ans, entre 2007 et 2017, LVMH, par exemple, aurait réduit ses impôts de 518 millions d'euros.
Ah, quand même, ouais.
Oui, au titre de sommes versées à la Fondation Louis Vuitton. Donc, voilà, c'est quand même des sommes qui sont considérables. Alors, ouais. Heureusement, lorsqu'on parle de particuliers, on parle de sommes beaucoup plus modestes et voilà.
Nolwenn Poupon, une réaction quand même à ce message envoyé par Maurice. Est-ce que ça, effectivement, ça enlève la responsabilité de l'État? Comment vous réagissez?
Alors déjà, le don est un espace de liberté. Donc en effet, on donne à la cause qui nous touche. On n'a pas tous les mêmes causes de proximité, les choses qui ont bouleversé notre vie, qui nous font peur ou qui nous ont concernés. Donc ça, bien entendu, et on sait qu'il y a des causes qui sont, je vous l'ai dit au début, plus médiatisées, donc qui peuvent susciter plus facilement le don, et des causes qui sont plus difficiles. Par contre, cette générosité, elle a été également un espace d'innovation. C'est-à-dire que les premières associations qui sont créées et qui sont exclusivement dépendantes des dons, elles se sont créées parce que ce sont un groupe de gens, c'est quand même ça à la base d'une association, un groupe de gens qui ont voulu un peu changer le monde. Je pense à l'AFM Téléthon, ce sont des parents avec des enfants malades. L'État ne répondait pas à leurs besoins puisque c'était des maladies orphelines, donc vraiment dans l'angle mort toujours des politiques publiques. Et elles se sont réunies, elles ont essayé de trouver des solutions. Elles ont trouvé ce modèle de Téléthon, d'événements qui passent à la télé. Elles se sont dit « Oh, c'est génial, on va essayer ». Et maintenant, c'est l'événement qui collecte le plus. Idem sur le sida. Le sida, il y a 30-40 ans, c'était une cause très difficile. C'était des gens qui devaient malheureusement se cacher. Et ce sont des malades qui se sont créés, qui se sont regroupés pour créer des associations de prévention et de recherche sur la maladie et qui ont permis d'apporter des solutions pour qu'ensuite l'État puisse conduire des politiques publiques. Donc il y a aussi cet espace d'innovation avec les associations et ce qui est permis par la générosité des Français.
Innovation, on pense bien sûr aussi à Coluche avec les Restos du Cœur. On pense avant cela à l'appel d'hiver 54 de l'abbé Pierre qui a lancé Emmaüs et puis plein d'initiatives du côté des chrétiens dans plein de domaines également, que ce soit pour les réfugiés ou les sans-abri. On pense à Lazare aujourd'hui avec tous ces systèmes de colocation. Effectivement, plein d'innovations. J'aimerais qu'on revienne à ce qui se passe en ce moment, parce que là on a regardé sur le temps long, on a regardé la sociologie des donateurs. Si on zoome un peu plus sur ces derniers mois, ces dernières années, alors on l'a un tout petit peu évoqué, mais 2020 a effectivement été une année complètement exceptionnelle à tout point de vue, avec la pandémie, avec le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé précisément en matière de dons? Comment ont réagi les Français? Et puis depuis, est-ce que ça a changé après la fin de la pandémie, quand bien même elle serait pas complètement terminée? Nolwenn Poupon.
Alors sur l'année 2020, en effet, il y a eu une mobilisation exceptionnelle. Si on intègre les dons faits dans le cadre de l'urgence Covid, on était sur une croissance de 13,7% des montants des dons entre 2019 et 2020. Mais même si on retire ces dons Covid, on était sur une croissance de plus 8%. Forcément, c'est la première fois que notre crise nous concerne tous, chaque Français, non-stop sur les médias, on ne faisait parler que de ça. Et puis on sait également que c'est une période où des gens sont tombés dans la grande précarité malheureusement, mais d'autres catégories de Français ont vu leurs ressources augmenter parce que leurs charges et leurs dépenses baissaient. L'épargne n'a jamais été aussi forte qu'en 2020 et donc il y a pu y avoir cet enjeu aussi de redevabilité. En parallèle, on voyait par exemple des associations comme le Secours Populaire qui témoignaient qu'elles avaient une hausse de 45% des personnes qui demandaient une aide alimentaire en plus. Donc heureusement que les dons ont augmenté pour faire face à ces besoins. Ça, c'était vraiment un contexte d'urgence. Après, sur les façons de donner, il y a toujours une vraie stabilité. On en parlait, les dons de fin d'année. Nous, on se rend compte que sur le total des dons, c'est 40% qui arrivent sur les trois derniers mois de l'année, dont la moitié sur le mois de décembre. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette tradition historique de redevabilité. On se fait plaisir au moment des fêtes, donc on a envie aussi de penser et d'aider ceux qui ont moins de chance. Et vraiment, du 1er décembre au 31 décembre, on voit que les dons sont crescendo aux associations.
François Maillot, en quoi cette année 2020 a été effectivement complètement à part ? Et derrière, en 2021, est-ce qu'on a eu un retour à la normale ou pas ?
Alors, 2020, une année exceptionnelle, une année extraordinaire, dont tous les acteurs ont été presque surpris et vraiment très
Les Français
heureux.
Se sont vraiment mobilisés, parce que les associations ont eu très peur à ce moment-là.
Nous, on pouvait, Nolwenn le disait, on ne pouvait plus envoyer un seul courrier d'appel à don. Et donc, rappelez-vous, à l'antenne de RCF, à un moment donné, c'est là aussi où naissent les jeudis, du don, pour dire ouais. il faut y aller, on a besoin de vous. Et il y a eu cette capacité à adopter des nouveaux moyens, notamment le don en ligne, en tout cas, à les développer davantage. Donc, vraiment une vraie générosité. Alors, évidemment, différente quand même selon les secteurs, hein, ça a bénéficié beaucoup à la santé, à la recherche, ça a beaucoup bénéficié aux causes sociales. Et là aussi, on sent peut-être, et je sais que c'est un combat de franche générosité, on sent peut-être une certaine inégalité qui peut être liée aux déductions fiscales. Par exemple, pour faire simple, ce qu'on appelle l'amendement Coluche, fait en sorte que on a une déduction pour les Restos du Cœur, pour les banques alimentaires, pour les personnes qui vraiment donnent des denrées de première nécessité, notamment aux personnes démunies. Ces associations-là bénéficient d'une déduction fiscale de 75% du don, de l'impôt sur le revenu, par rapport à 66% sur les autres associations. Et pendant cette période forte de pandémie, le gouvernement a dit il faut donner un coup de pouce. Et donc, le plafond qui était au-dessus de 500 euros à l'époque pour bénéficier de ces déductions fiscales est monté jusqu'à 1 000 euros et est resté aujourd'hui jusqu'à 1 000 euros. Donc ça, c'est très, très bien parce que ça signifie que ces causes ont vraiment été boostées. Mais c'est un peu aussi, est-ce que c'est tout à fait juste, puisque ça veut dire que finalement, il y aurait des causes qui sont plus importantes que d'autres. Est-ce que la présence auprès des sans-abri est plus importante que la présence auprès de l'enfance, etc., etc. Donc là, je sais que France Générosité milite beaucoup pour un équilibre global des déductions fiscales.
Nolwenn Poupon, là, un enjeu sur ces causes, justement, et cet équilibre?
Tout à fait. Nous, on promeut la stabilité fiscale. On veut plus de changement parce que le changement, en plus, ça perturbe le donateur. Il l'a très bien expliqué. En tant que donateur, on ne sait plus en plus où en est sa réduction fiscale. Et ensuite, il y a une égalité envers les causes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cause qui est mieux que l'autre. Après, on peut avoir, nous, ses choix individuels, mais ce n'est pas à l'État, en effet, de le décider. Et nous, on a fait une tribune l'année dernière dans la Croix, justement pour dire qu'il ne fallait pas hiérarchiser les causes, bien entendu.
Julien nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Julien.
Bonjour à vous. Un grand merci pour toutes vos émissions. Et je pense, au niveau générosité, je pense au dernier jeudi du don d'hier. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que je pense à toutes les personnes qui, financièrement, ne sont pas en capacité de pouvoir donner de l'argent, mais qui sont néanmoins généreuses par d'autres actions. Voilà, c'était par rapport à ce que je disais à votre collaboratrice qui m'interpellait, c'était le thème qui était la générosité.
Ouais.
Et donc la générosité n'est pas que pécuniaire.
Merci Julien, merci de nous avoir appelé ce matin dans Je pense donc j'agis. En effet, Julien qui dit que voilà, ceux qui n'ont pas forcément les moyens de donner peuvent donner de leur temps, et au contraire ceux qui ont les moyens de donner peuvent donner parfois un peu plus, un peu un don solidaire pour penser à celles et ceux qui peuvent pas donner.
En tout cas, grande question qui nous réveille quand même, ouais. Hein, de ce que nous dit Julien à l'instant, François Maillot.
Ah, complètement, parce que effectivement l'appel à la générosité, c'est la générosité du don d'argent, c'est la générosité du don de temps, et on voit d'ailleurs très souvent que ça va ensemble, hein, c'est-à-dire que, et puis on voit que des personnes très très modestes donnent, et comme je le disais tout à l'heure, avec parfois proportionnellement à leurs revenus, hein, je ne vais pas parler de bol de la veuve, mais peuvent donner beaucoup. Et puis ça nous interpelle aussi, si on prend des émissions un peu techniques, comme la deuxième partie de l'émission que vous allez avoir avec une démarche fiscale, etc. Ça nous interpelle aussi sur le fait que ces personnes modestes qui pourraient pouvoir donner ne bénéficient pas de déduction fiscale. Et donc aujourd'hui, un certain nombre de personnes plaident sur un système où on pourrait même sans être assujetti à l'impôt, avoir un crédit d'impôt. Donc vous donneriez 100 euros. Normalement, vous devriez bénéficier d'une déduction d'impôt de 66%. Vous ne payez pas l'impôt, mais l'État pourrait vous rendre 66%.
Intéressant. Et quelle réaction, vous, Nolwenn Poupon, à l'interpellation de Julien qu'on vient d'entendre?
Alors, c'est vrai que c'est des demandes qu'on a des donateurs. Et en effet, il y a quasiment, je crois, un quart des donateurs qui déclarent leurs dons qui sont non imposables à l'impôt.
Ouais, c'est énorme.
Oui. Nous, chez France Générosité, ce qu'on voulait promouvoir, c'était cet enjeu de trouver des nouveaux donateurs. Donc, on s'est dit comment on arrive à mobiliser des nouveaux donateurs à rentrer dans le don. Et on a eu un territoire d'innovation avec le Covid. parce qu'on a beaucoup de gens qui nous ont contactés pendant le Covid en disant bah moi je peux pas prendre mes congés et j'aimerais bien donner mes congés à une association, à une fondation, monétiser mes congés payés et mes RTT, réduction de temps de travail, pour les donner à une association, à une fondation. Et c'est ce qu'on a proposé dans le cadre des élections présidentielles aux candidats, de mettre en place un dispositif législatif pour que chaque salarié puisse donner 1, 2, 3, le nombre de jours qu'il veut, et le monétiser auprès des associations. On sait également qu'il y a une grande majorité des Français qui ne peuvent pas prendre ces dons chaque année, et on se rend compte que c'est un potentiel de générosité facile à développer et indolore pour le donateur.
C'est intéressant cette innovation. On évoquait les jeunes et l'enjeu de pouvoir les rejoindre, mais on sait aussi combien ils sont innovants. Il y a eu le développement ces dernières années de ce qu'on appelle en bon français le crowdfunding, donc le financement par la foule, par le groupe participatif. Comment vous observez aussi tout ce qui s'invente du côté des jeunes et en particulier sur digital, Nolwenn Poupon?
Ah bah c'est incroyable le boom du digital. Il y a à la fois le moyen de toucher de nouvelles populations et également de toucher des communautés. On a vu nous une explosion en effet du crowdfunding, à la fois sur la générosité et également sur le financement de projets plus entrepreneurial, et également le gaming. C'est-à-dire
le gaming, expliquez-nous.
C'est-à-dire il y a des gens qui adorent jouer aux jeux vidéo et c'est une vraie communauté qui ont leur code, leurs habitudes très digital. Et donc, ça fait quelques années que des pros du gaming ont créé un événement qui s'appelle le Z-Event. Et pendant 48 heures, ils collectent, ils jouent et ils appellent leur communauté à faire un don à une association. La dernière association, c'était Action contre la faim, qui a collecté 10 millions d'euros en 48 heures, en sachant que l'année d'avant, c'était pour Amnesty International et qu'ils avaient collecté 5 millions d'euros, ce qui était déjà énorme. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est pas l'association qui collecte, c'est eux qui ont créé leur système, c'est eux qui ont porté ce projet-là, ils ont touché leur communauté et l'association en bénéficie de facto. Et donc voilà, c'est plein de nouvelles façons de donner. Et ce qui est important également, c'est que quand on demande aux Français pourquoi ils donnent pas, il y a 14% des Français qui disent parce que je ne sais pas à quelle cause donner. Je ne sais pas à quelle cause, à quelle association. Et là, on a un travail de mise en avant des associations et de leur mission. Le Z-Event est un super exemple. Et nous, chez France Générosité, en collectif, on a créé une plateforme de dons qui s'appelle infodon.fr et qui explique aux Français pourquoi donner, comment donner. Donc après, vous allez parler de libéralité, de transmission de patrimoine. Nous, on a tout expliqué aux Français sur ce site infodon.fr. Et surtout, on référence les associations et les fondations et on les met en lien avec les internautes.
Alors, c'est le moment, effectivement, potentiellement de donner. J'aimerais qu'on parle un peu plus. On a parlé de 2020, 2021, 2022. On est fin mai, quasiment fin mai, mi-mai, fin mai 2022. C'est quoi les tendances en ce début 2022? Est-ce que effectivement, là encore, on a un repli ou au contraire, la générosité des Français se relance? On est dans un contexte très particulier aussi de forte baisse du pouvoir d'achat des Français avec la hausse des prix de l'énergie et plein d'autres denrées. On a aussi la guerre en Ukraine qui a déclenché un très grand élan de générosité. Nolwenn Poupon, alors je sais que le baromètre de France Générosité est pas encore tout à fait sorti, mais est-ce que vous avez quelques tendances de ce qui se profile?
Alors, vous l'avez très bien résumé, hein, sur l'Ukraine, il y a une mobilisation exceptionnelle et ça, tous les acteurs qui travaillent sur l'urgence Ukraine l'ont dit, les Français se sont mobilisés et en même temps, on a ce contexte d'une élection présidentielle qui crée toujours un petit climat difficile. Hein. Si on regarde la générosité sur 20 ans, les années d'élection présidentielle, c'est des années plutôt stables en termes de générosité puisqu'on est toujours dans l'attente. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va être au pouvoir? Quelles mesures vont passer?
Une incertitude.
Etc. Voilà, et puis on est concentré là-dessus. Sur ça, vous ajoutez encore le contexte de fin de Covid, en tout cas de fin des confinements et des restrictions, et en effet la hausse du pouvoir d'achat. Moi, malheureusement, j'ai pas de boule de cristal, mais surtout comme on sait qu'il y a 20% des montants des dons qui arrivent en décembre, c'est très compliqué d'avoir des tendances en début d'année puisque tout se jouera jusqu'au 31 décembre et qu'il faut appeler les Français à soutenir les associations. Sinon, on peut être bien toute l'année. S'il y a une baisse au mois de décembre, on sera en déficit sur l'année 2022.
François Maillot, au vu de ce contexte, hein, la baisse du pouvoir d'achat, ce contexte géopolitique aussi si particulier avec la guerre en Ukraine, est-ce que les associations aujourd'hui sont inquiètes ?
Oui, je pense qu'il y a une inquiétude. On n'a pas encore les chiffres complets de 2021, hein, donc ça a été dit. Les tendances, je les données pour le denier de l'Église, mais on a quand même la tendance aussi au niveau du digital, hein, parce qu'il y a un baromètre e-Riser qui a montré certaines tendances avec une baisse de la collecte digitale en 2021 de 15%. Il faut dire qu'elle avait tellement progressé en 2020 que c'est normal qu'il y ait eu un certain rattrapage. Ça reste bien en augmentation par rapport à 2019. Donc on a beaucoup de cas de figure où on voit des associations qui en 2021 ont collecté moins qu'en 2020, mais quand même plus qu'en 2019. Et donc on voit que beaucoup d'associations prennent comme étalon, comme élément de repère, non pas 2020, qui est une année exceptionnelle, mais 2019, pour pouvoir un petit peu lisser et éviter d'avoir des comparaisons avec des choses exceptionnelles. Alors, il faut souligner ici, et c'est important pour vos auditeurs, et notamment qui sont également donateurs pour un certain nombre d'entre eux, que RCF a plutôt bien résisté en 2021. Hein, donc une légère baisse, les chiffres définitifs seront bientôt donnés, mais vraiment très très relative, et une grande fidélité des donateurs. Et ça, on peut s'en réjouir. Par rapport à 2022...
Par contre, une baisse en ce premier trimestre 2022. Hein.
Voilà, une baisse en ce premier trimestre 2022. Et donc ça préoccupe. Et tous les éléments qui ont été mentionnés, baisse du pouvoir d'achat, incertitudes liées aux élections, etc., expliquent en grande partie ça. L'Ukraine l'explique aussi, parce que mine de rien, quand les dons ont été focalisés sur cette cause tout à fait noble, indispensable, etc., ben, certaines personnes se disent, ben, je ne vais pas donner tout de suite à ma cause habituelle. Comme le disait Nolwenn, il faut qu'ils le donnent après. Et donc, on ne peut encourager en particulier que tous les auditeurs qui tiennent à leur radio continuent à encourager RCF, bien évidemment, en 2022.
Oui, on n'a pas encore les chiffres définitifs qui sont tombés sur 2021. Il y a quelques semaines, un sondage, en revanche, qui a été sorti par nos amis des apprentis d'Auteuil avec l'Institut de sondage Ipsos qui montre quand même qu'il y a eu une baisse nette, hein, en 2021, du don chez l'ensemble des donateurs et aussi sur les donateurs à haut revenu. Alors, ce n'est qu'un sondage, hein, ce n'est pas les chiffres définitifs, mais est-ce que ça veut dire effectivement, Nolwenn Poupon, que en ce début d'année, une certaine inquiétude chez les associations et les fondations ?
Alors, en effet, c'est un sondage. Nous, ce qu'on constate, c'est plutôt l'Ukraine qui a mobilisé. Nous, on a énormément d'acteurs humanitaires. Il y a plus de une trentaine d'associations et fondations qui sont intervenues. Donc les chiffres de l'Ukraine, on arrive à avoir une forte mobilisation et donc j'arrive pas trop à voir la tendance globale du premier semestre et je voudrais pas vous dire une bêtise. Il est certain que les besoins par contre sont là. Ça, les associations et les fondations nous le font remonter. Et bien entendu, l'arrivée d'Ukrainiens qui vont fuir le conflit va augmenter ces besoins et les associations auront d'autant plus besoin de dons.
Quand on voit aussi cet impact fort, hein, sur le pouvoir d'achat, donc on commence à peine à mesurer l'ampleur, puisqu'il est lié à la fois à la crise Covid et désormais à la crise et à la guerre en Ukraine. Vous nous aviez évoqué, Nolwenn Poupon, le fait que 1 million de personnes étaient passées sous le seuil de pauvreté dans le cadre de la pandémie. On a peut-être potentiellement un risque fort de encore plus de personnes qui puissent passer sous ce seuil de pauvreté. Est-ce que ça veut dire aussi que les plus privilégiés de notre société ont peut-être sont invités quelque part à se mobiliser encore plus auprès des associations et des fondations, Nolwenn Poupon?
Bah, on s'est rendu compte que tous les Français se mobilisent plus. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, les Français sont généreux et fidèles. Mais en plus, on le voit parce que c'est eux qui augmentent chaque année le montant moyen de leurs dons. La générosité en France, elle n'est pas parce qu'il y a plus de donateurs. Elle se développe parce que les Français qui donnent chaque année un peu plus aux associations et aux fondations. Et quel que soit leur niveau de don, quelle que soit leur catégorie sociale, on voit cette progression en collectif. Donc cet effort de don, il est fait. L'enjeu maintenant pour nous, c'est de réussir à mobiliser plus de Français, à leur montrer tous les gages de confiance auprès des associations et des fondations, à montrer également toutes les actions positives qui sont nées des associations et des fondations. Il y a énormément, on parle beaucoup du service civique, par exemple, en France. Bon, il faut savoir que c'est un dispositif qui est né dans une association, financé par des dons. On s'est rendu compte que le système marchait et qu'ensuite, on l'a transformé en politique publique.
Chercher de nouveaux donateurs, on sait c'est quelque chose d'ailleurs dont on parle souvent sur RCF, puisqu'il y a en l'occurrence qu'un auditeur sur 10 qui nous donne, et on aimerait bien qu'il y ait plus de gens qui fassent le pas. Ça, c'est un enjeu, François Maillot, parce qu'on voit aussi de fait le don moyen qui augmente parce que le nombre de donateurs diminue.
Parce que, en tout cas, parce que les donateurs fidèles sont de plus en plus engagés dans leur cause. Mais c'est vrai que c'est la grande incertitude. Aujourd'hui, il y a une baisse structurelle du nombre de donateurs en France. L'année 2020 ayant été une exception, mais il y a une baisse structurelle, tendancielle, légère, mais régulière du nombre de donateurs. Donc on a encore plus besoin aujourd'hui de rentrer dans une dynamique, et notamment éducative, pour faire en sorte que les jeunes générations soient le plus vite possible sensibilisées dans leur comportement à l'importance du don, et pour en revenir à une question de votre auditeur, don financier, mais aussi don de temps et de bénévolat.
Voilà, enjeu majeur pour les jeunes, en particulier les jeunes générations, ceux qui n'ont pas encore donné. Je crois qu'on va en parler dans cette deuxième heure un peu plus sur comment donner, ouais. Melchior. En tout cas, un immense merci à vous, Nolwenn Poupon. Je rappelle que vous êtes directrice des études à France Générosité, pour nous avoir aidé à décrypter un peu cette dynamique. Et on se réjouit de cette belle dynamique. On espère qu'elle va durer des Français pour soutenir les grandes causes de solidarité. Merci à vous, François Maillot, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur honoraire de l'école de management de Lyon et président de la société de conseil auprès des associations Ultravia.
Merci. Et venez nous dire comment vous exercez votre générosité. Comment donnez-vous aux associations ? On vous accueille au 04 72 38 20 23. A tout de suite sur RCF pour la seconde partie.